Gobert Ingré. Nous avons commencé à étudier le début du sermon sur la montagne avec les béatitudes où Jésus déclare heureux. Heureux notamment ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle car le royaume des cieux leur appartient. Heureux aussi ceux qui sont doux, humbles car ils hériteront de la terre. Et nous avions noté que dans notre monde, habituellement, les pauvres ne reçoivent pas grand-chose. Et ceux qui sont doux et humbles, on a tendance à leur marcher sur les pieds. Ici-bas, la vie n'est pas toujours facile. Et elle l'est encore moins lorsque l'on est faible, pauvre, humble. Les plus faibles, en plus d'être délaissés, souffrent d'un manque de confiance envers eux-mêmes et envers la société. Mais dans la logique de Dieu, c'est l'inverse. L'apôtre Paul déclare que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et je vous avoue que ces paroles résonnent d'une manière particulière en moi, car pendant mon enfance, je me suis souvent senti pas à la hauteur, et cela m'a poursuivi pendant des années. Dans la vision du monde biblique, peu importe que l'on soit faible ou fort, ce qui compte, c'est de laisser Dieu prendre notre vie en main. Et Elisabeth en a déjà témoigné un peu ce matin. Jésus a choisi des hommes et des femmes ordinaires pour faire partie de ses enfants, ses disciples, ses serviteurs, ses servantes. Jésus a choisi des hommes ordinaires pour faire partie des apôtres. Plusieurs d'entre eux sont de simples pêcheurs de poissons. Et lorsque l'on observe leurs différentes réactions, ils étaient souvent à côté de la plaque. En gros, Jésus s'est choisi une équipe loin d'être compétente à la base. Mais sa puissance s'est révélée à travers eux, et plus tard, ils ont accompli de grandes choses pour la gloire de Dieu. De même, si l'on regarde les rois et les prophètes que Dieu a choisis, c'est pareil. Moïse était un homme qui bégayait, qui manquait de confiance en lui, mais Dieu l'a choisi pour conduire les Israélites hors de l'esclavage en Égypte et pour leur donner une loi sur le mont Sinaï. David était le plus jeune des fils de son père, c'était même un ado quand il a été appelé, un simple berger. Pourtant, Dieu l'a choisi pour devenir roi d'Israël et il est devenu l'un des plus grands rois d'Israël, connu pour sa foi et sa musique. Gédéon était un homme timide et peu sûr de lui, mais Dieu l'a appelé à conduire les Israélites à la victoire contre leurs ennemis, les Madianites. Ruth était une étrangère, une Moabite et une veuve, mais elle est devenue un exemple de foi et d'obéissance envers Dieu. Et elle est également l'arrière-grand-mère du roi David. Jérémie était un jeune prophète qui se sentait inapte à la mission, mais il est devenu un prophète majeur dans l'Ancien Testament. Et là où je veux en venir, c'est que Jonas également était un prophète particulier, avec un esprit assez complexe. Ses réactions étaient toujours extrêmes, c'était toujours tout ou rien. Lorsqu'il ne veut pas obéir à Dieu, il fuit très loin et demande même d'être jeté à la mer au risque de mourir. Lorsqu'il s'engage, il fait de belles promesses, de belles prières inspirées des psaumes. Lorsqu'il obéit, il fait ce que Dieu lui demande. Et lorsqu'il est irrité, il désire la mort, cela même à plusieurs reprises. Dans ce chapitre 4 que nous allons lire, nous assistons en effet à un dialogue très particulier entre Jonas et Dieu. Jonas désire la mort et Dieu use de pédagogie pour le faire réfléchir. Mais avant de lire ce dernier chapitre du livre de Jonas, voici un bref résumé des chapitres précédents. Le livre commence par l'appel de Dieu à Jonas pour aller prophétiser en dehors d'Israël à Ninive, en Assyrie. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, à une période où l'Assyrie faisait régner la terreur dans le Moyen-Orient ancien. Ninive était la capitale de l'Assyrie. Ses habitants étaient connus pour être cruels, barbares. Ils pratiquaient la torture, la décapitation publique, les sacrifices humains. Au début du livre, Jonas ne veut pas aller transmettre les messages et les avertissements de Dieu. Il fuit donc loin de Ninive. Il prend un bateau, mais Dieu le rattrape en quelque sorte. Il fait se lever une tempête. Les membres de l'équipage, face à cette tempête mortelle, font alors chacun appel à leur Dieu. Mais la tempête ne s'apaise pas. Ils apprennent alors que leur malheur arrive à cause de Jonas. Celui-ci explique la situation. Il tente de fuir loin de son Dieu, le créateur de la mer, du ciel, de la terre. Et s'ils veulent survivre, il leur propose de le jeter à la mer. Ce qu'ils finissent par faire à regret. La tempête se calme, les marins mettent leur foi en Dieu et Jonas se retrouve dans l'eau, en danger de mort. Au chapitre 2, alors qu'il est proche de la mort, Jonas fait appel à Dieu et l'Éternel vient à son secours en opérant deux miracles. Tout d'abord, il fait venir un grand poisson pour avaler Jonas et ensuite il permet à Jonas de survivre 3 jours dans le ventre de ce poisson avant d'être rejeté sur la terre ferme. Pendant cette période, Jonas prie encore et décide de se réengager pour servir Dieu. Au chapitre 3, Jonas obéit à Dieu. Il parcourt Ninive en transmettant le message suivant de la part de Dieu. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et de manière spectaculaire, tous les habitants de la ville se repentent et Dieu renonce au mal dont il les avait menacés. Voici maintenant la suite, chapitre 4. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea, et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. » Voilà comment se termine le livre. On s'attendrait à une suite, mais non, c'est la fin. Ce chapitre 4 commence fort avec la colère de Jonas. C'est mon premier point, la colère de Jonas. Il dit enfin ce qu'il pense. C'est seulement dans ce chapitre qu'il révèle le fond de sa pensée. Maintenant qu'il est contrarié au plus haut point, il ose enfin s'exprimer, un peu comme nous, parfois. Pourquoi Jonas est-il en colère? Parce que les habitants de Ninive se repentent. Écoutons encore sa réaction, versets 2 et 3. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter, donc leur repentance, hein, c'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et que tu regrettes le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Ce passage est très ironique, très même choquant, car en général, pourquoi nous sommes en colère? En général, nous sommes en colère lorsque on ne nous écoute pas. En tout cas, chez moi, lorsque je demande quelque chose aux enfants à plusieurs reprises et qu'ils continuent leur vie comme s'ils n'avaient rien entendu, cela me fâche. Pour prendre un exemple plus significatif, nous pouvons penser au prophète Élie. Élie qui a prophétisé en Israël et qui n'a pas été écouté. Il dit à Dieu vouloir mourir tellement il se sentait seul, incompris, inutile, car il parlait dans le vent. Élie voulait mourir parce que personne ne l'écoutait. Ici, c'est l'inverse. Jonas est en colère et veut mourir parce que sa proclamation a été entendue, comprise et suivie d'effet. De même, normalement, les gens se mettent en colère face au mal. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu ne met pas les méchants hors d'état de nuire. Là encore, c'est l'inverse. Jonas est en colère parce que le message de Dieu a changé le cœur des méchants, au point qu'ils se repentent et s'écartent de leurs mauvaises actions. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les habitants de Ninive étaient les plus grands ennemis d'Israël. Jonas n'accepte pas que son Dieu soit aussi le Dieu des ennemis. Dans la vision du monde de l'époque, chaque peuple avait son Dieu et chaque Dieu était là pour son peuple. Ici, Dieu fait grâce aux ennemis. Le Dieu d'Israël est aussi le Dieu des païens. Et c'est impensable pour un juif de l'époque. Avons-nous des réactions similaires à celles de Jonas? Nous pouvons nous dire, ben non, notre Dieu, nous voulons le partager à tout le monde. Mais à chaque fois que nous avons envie de donner des conseils à Dieu, je pense que nous faisons un peu comme Jonas. Y a-t-il des situations où nous disons à Dieu, pourquoi tu n'interviens pas tout de suite? Pourquoi tu ne réponds pas à ma prière comme je le demande? Ma prière est pourtant louable, ma vision de la justice est pourtant justifiée. Eh bien, l'histoire de Jonas nous apprend que lorsque nous ne comprenons pas le Seigneur, le problème vient de nous et pas de lui. Lorsque nous ne comprenons pas le Seigneur, lorsque nous ne comprenons pas pourquoi telle chose est dite dans la Bible, eh bien, le problème ne vient pas de lui, il vient de nous. Nous venons de voir la réaction de Jonas, alors quelle est la réaction de Dieu maintenant? Dieu use de pédagogie. Lorsque nous ne comprenons pas, Dieu use de pédagogie. C'est mon deuxième point, la pédagogie de Dieu. En général, lorsqu'une personne est en colère, on veut lui répondre et lui dire s'il a tort que sa réaction n'est pas la bonne. Dieu aurait pu dire à Jonas ces quatre vérités. Il aurait pu lui dire qu'il réagit comme un enfant immature. Au lieu de se confronter à lui, il l'accompagne. Dieu accompagne Jonas. Et il pose une question toute simple. Fais-tu bien de t'irriter ? Juste une question toute simple. Et par cette question, il ouvre le dialogue et il l'invite à réfléchir. Cette pédagogie de Dieu se retrouve à travers toute la Bible, à commencer par Caïn, le fils d'Adam et Ève, qui projetait de tuer son frère par jalousie. Dieu lui demande, en Genèse chapitre 4, verset 6, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ?» Le point commun entre Jonas et Caïn, c'est que leur jalousie les mène à la colère. Et la colère leur donne des envies de mort. La colère les ronge de l'intérieur. Et la colère nous ronge de l'intérieur. Caïn veut tuer son frère. Et Jonas aurait voulu que Ninive soit jugée, que ses habitants soient tués. Mais comme cela ne va pas arriver, il veut sa propre mort. Pour accompagner Jonas dans sa réflexion, Dieu fait pousser en un jour une plante qui donne de l'ombre à Jonas et de la joie aussi à Jonas. On remarque une fois de plus à quel point Jonas a des émotions fluctuantes. Tantôt il est irrité au point de vouloir mourir, tantôt il est joyeux grâce à une plante, un ricin en l'occurrence. Mais voilà que Dieu, cette fois-ci, au lieu d'envoyer un gros poisson, envoie un petit ver afin de détruire la plante. Et en plus de cela, Dieu envoie aussi un vent chaud, non pas une tempête cette fois-ci, mais un vent chaud qui accélère et qui exacerbe la réaction de Jonas. Une fois de plus, il s'irrite au point de vouloir mourir. Donc si l'on résume, Jonas est d'abord en colère parce que Dieu n'a pas détruit Ninive, il les a épargnés, et lorsque Dieu détruit une simple plante, Jonas se fâche. Dieu veut lui faire comprendre son incohérence. Il éprouve de l'affection pour une plante, mais pas pour des êtres humains. Il aurait voulu que Dieu épargne la plante, mais les habitants de Ninive, non. Il aurait fallu les détruire. Alors pour conclure, que retenir de ce chapitre ? Il me semble que la fin du livre de Jonas traite de l'universalité de l'amour de Dieu. Alors pour nous, c'est une évidence, certainement. Mais cela n'était pas le cas en Israël au temps de Jonas. Mais plus que l'universalité de l'amour de Dieu, cette fin de livre nous interroge, nous, personnellement. Comment Jonas a-t-il réagi à la fin ? Nous n'avons pas la fin de l'histoire, et cela nous renvoie à nos propres réactions. Au premier chapitre, nous assistons à la conversion des marins. Au chapitre 2, nous assistons au réengagement de Jonas. Au chapitre 3, nous assistons à la repentance de Ninive. Et au chapitre 4, qui change d'attitude ? Qu'est-ce qui change d'attitude ? Il me semble que l'auteur nous pose la question à nous. Et nous, sommes-nous prêts à changer d'attitude ? Comme Jonas, avons-nous un problème avec Dieu ? Sachant que Dieu est le Dieu de tous, et donc aussi mon Dieu, comment je réagis à sa main tendue ? Comment je réagis au message de l'Évangile, malgré mes incompréhensions, malgré ce qui me semble injuste de la part de Dieu ? Ce chapitre fait écho à un verset bien connu dans nos églises. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Dieu a bien aimé le monde entier, pas seulement un peuple en particulier, mais le monde entier, donc moi y compris. Ce chapitre nous montre que Dieu ne lâche rien et il ne lâche personne. Le livre de Jonas aurait pu se terminer au chapitre 3. On aurait pu enlever le chapitre 4 et cela aurait fait une belle fin. Jonas accomplit sa mission, Ninive se repent, fin, une belle histoire. La mission de Jonas a été un succès. Ninive se repent et Dieu fait grâce. C'est une belle histoire. Mais l'histoire se poursuit. Jonas n'est pas content. Dieu aurait pu lui dire, si t'es pas content, tant pis pour toi, au moins Ninive est sauvée. Si tu n'es pas content, c'est ton problème, car c'est toi qui as un problème avec moi. Au lieu de cela, comme depuis le début du livre, Dieu use de tous les moyens pour accompagner Jonas dans sa foi. De la tempête en pleine mer jusqu'au gros poisson, de la plante au petit ver, sans oublier le vent chaud, Dieu, dans sa patience, use de moyens incroyables pour ouvrir les yeux et ouvrir le cœur de Jonas encore et encore. Dieu ne lâche rien. Dieu ne lâche personne et encore moins les plus faibles, comme nous l'avons vu au début. Dieu ne lâche rien. Dieu ne lâche personne. Prenons-le pour nous. L'Éternel est bien le Dieu de tous. Il est mon Dieu, le Dieu compatissant, lent à la colère, plein de grâce. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que les plus faibles de ce monde sont importants pour toi. Merci parce que tu es le Dieu de tous, tu es donc aussi mon Dieu, tu es le Dieu des plus faibles et tu ne lâches personne. Tous ont de l'importance à tes yeux. Aide-nous à répondre favorablement à ton appel, aide-nous à te suivre malgré les choses que nous ne comprenons pas dans notre vie, dans ce monde. Merci parce que ta parole nous rappelle sans cesse que tu es un Dieu de grâce, lent à la colère et plein de compassion. Que ton Église puisse proclamer ce message, le vivre et en témoigner. Au nom de Jésus. Amen.